السلام عليكم كتاب بسم الله الرحمن الرحيم
راديو فوت انترناسيونال
من قطر
اني غاسني
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de l'émission qui vous parle de football et de la Coupe du Monde en ce moment, bien sûr, Radio Foot International sur la Radio Mondiale. Nous commencerons aujourd'hui par des champions du monde qui sont toujours au Qatar, qualifiés pour les quarts de finale. Et ce sera France-Angleterre, le prochain match. Les Bleus se sont illustrés contre la Pologne, collectivement mais aussi individuellement. Kylian Mbappé attire la lumière une fois encore. Jusqu'où iront les Français ? Les lions de la Teranga, mangés par les lions anglais, qu'a-t-il manqué au Sénégal, à ce Sénégal, pour poursuivre l'aventure en terre qatarienne ? Le Brésil, avec Neymar pour son huitième de finale contre la surprenante Corée du Sud. Sont-ils vraiment les favoris, les Brésiliens, alors qu'ils ont perdu de nouveaux joueurs sur blessure ? Et puis, comment va l'éternel roi du football ? Nous prendrons des nouvelles de Pelé directement au Brésil avec Eric Frozio. Dans ce studio aujourd'hui, un lion malheureux, il sourit un peu, mais il est malheureux quand même. Bonjour Yoro Mangara.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Un lion qui sourit en face.
Ah oui.
Bruno Constant.
Bonjour, bonjour Annie. Bonjour Yoro.
C'est un faux lion, mais.
Bon. Oui, mais bon, le fair play, il n'avait pas été respecté. Trois lions contre un lion, quand même. Ça fait 3-0.
C'est vrai.
Et voilà. Bonjour Dominique Baïf.
Bonsoir à tous.
Merci d'être là, vous qui connaissez bien le football sud-américain. L'émission a été préparée avec David Finzel et Laurent Salerno est à la réalisation. Avant de commencer l'émission, un salut particulier à tous ceux qui, au Burkina Faso, nous écoutent en ce moment. Passionnés de football et fidèles auditeurs, bravo si vous êtes là, comme nos chers auditeurs du Mali. On ne vous oublie pas et espérons que vous pourrez très vite nous retrouver en FM pour continuer à ce qu'on vous parle de football.
Ousmane Dembélé, Dembélé en provocation, comme il aime ça, Mbappé, Mbappé qui a réussi à se démarquer, il va pouvoir se frapper, c'est dedans ! Le but de Kylian Mbappé, la frappe, elle est absolument imparable ! Kylian Mbappé dans la surface, la frappe et le but de Kylian Mbappé ! La France mène 3-0 !
Ça fait 5, donc là il est vraiment pour le coup meilleur buteur de la compétition et c'est pas terminé.
Les Bleus sont-ils en train d'écrire leur légende ? Alors, il est évidemment trop tôt, bien trop tôt pour le dire, mais les champions du monde sortants se savaient attendus au Qatar et pour l'instant, ils avancent. Les voilà en quart de finale après avoir battu la Pologne. Mais le match n'a donc pas été un fleuve tranquille. Ils nous ont fait aussi un peu peur, ces Français. Même le capitaine Hugo Lloris le reconnaît au micro d'Antoine Grenier.
Un huitième de finale de Coupe du Monde, à l'image de toutes les rencontres durant ce tournoi. Il n'y a pas de match facile. On a connu une première mi-temps avec des hauts et des bas. On a très bien démarré et au bout d'un quart d'heure, on a eu quelques passages à vide. On a été gêné par le pressing bien organisé des Polonais. Je crois qu'on a tous eu un petit peu de déchets dans le jeu et moi-même. Mais malgré ça, on est resté fort. Dans les moments chauds, dans les moments clés, il a fallu faire un arrêt, il a fallu être solide défensivement. Et puis ce but juste avant la mi-temps nous fait du bien, énormément de bien. Deuxième mi-temps, ça a été beaucoup mieux. Et même si on n'a pas trop vu Kylian, il marque deux buts d'anthologie qui nous donnent de l'air. Et le but polonais reste anecdotique.
Il reste anecdotique, ce but polonais. C'est vrai que ça a été un peu bizarre, cette séance de pénalty. Mais effectivement, c'est sûrement le regard honnête hein, d'un capitaine. Ils n'ont pas tout bien fait, Dominique Baïf. C'est quand même ça, même si la victoire, quand on regarde le score, est impressionnante.
Oui, la victoire est présente et c'était le plus important désormais dans cette nouvelle compétition qui démarre avec les matchs à élimination directe. Mais c'est vrai que dans le contenu, encore une fois, on a vu une équipe de France qui a eu quelques temps faibles et qui aurait pu payer très cher ces temps faibles-là. Et on a pu compter sur l'efficacité d'un Kylian Mbappé pour aussi permettre à cette équipe de France de retrouver cette confiance collectivement. Mais c'est vrai qu'on a encore quelques, je ne veux pas dire des doutes, mais il y a encore certains moments de match où on est vraiment dans le dur et face à une adversité beaucoup plus importante qu'on verra face à l'Angleterre. Il va falloir comment on va pouvoir réagir cette équipe de France.
Mm-hmm. Bruno Constant, effectivement, les Bleus, par moment, il y a eu des temps forts polonais, très clairement, en première mi-temps, qui, on le sait, hein, endormaient un peu l'adversaire et là, l'ont aussi fait. Mais ils n'ont pas paniqué et finalement, ils avaient quand même l'air d'être un peu sur deux. Enfin, de leur réaction, en tout cas.
Ouais, parce qu'ils ont les armes offensives pour répondre à chaque fois qu'on les attaque, l'équipe de France.
On se souvient quand ils avaient pris un but de l'Australie. Hein, oui. Après, ils avaient réagi. Quoi,
quelque part, parce que là, en l'occurrence, sur le match contre la Pologne, il y a une occasion de but terrible pour la Pologne et c'est dans l'action qui suit qu'ils vont inscrire le premier but.
Exactement.
Et on a l'impression que cette équipe de France, elle a besoin d'être un peu piquée, un peu bousculée pour réagir et montrer et hausser un peu son niveau et montrer sa vraie valeur. Moi, je trouve que c'est quand même inquiétant parce que c'est des moments de flottement qui arrivent contre l'Australie, qui arrivent contre
aussi.
La Pologne, contre le Danemark, qui ne sont pas des équipes extraordinaires. Honnêtement, le niveau de ces équipes-là n'a pas été extraordinaire. Le Danois était le Danemark était extrêmement décevant. L'Australie a fait un bon parcours, mais ce n'est pas une grande équipe. La Pologne était assez faible défensivement, tactiquement, techniquement. Il y a eu beaucoup, beaucoup de déchets. Donc on se demande, quand la marge va s'élever un peu plus haut, est-ce que l'équipe de France va pouvoir répondre ou est-ce qu'elle va sombrer et aspirer un peu par ses problèmes défensifs. Après, on se raccroche toujours à la qualité individuelle de certains joueurs, et notamment Kylian Mbappé. C'est rassurant d'avoir un joueur comme ça. Parce qu'aujourd'hui, au monde, il n'y a peut-être que deux joueurs qui sont capables de faire basculer un match par un seul joueur.
On va en parler après. Individuellement, on va voir ce qu'apporte chaque joueur. Mais dans le groupe, il y a encore quelques préoccupations, quelques inquiétudes, Yoro Mangara.
La défense et le milieu de terrain, des fois, on a l'impression qu'ils prennent l'eau sur certaines actions. Après,
juste la défense que le milieu de terrain, non ? Parce que Rabiot, Tchouaméni...
Oui, mais ils sont déjà à deux. Parce qu'à chaque fois que la France défend, il y a effectivement Griezmann qui fait énormément de courses, mais ils sont deux au milieu. Donc, ils sont moins nombreux que l'équipe adverse souvent. Et c'est ce qui expose d'ailleurs la défense française. Mais moi, je n'ai pas peur pour cette équipe française. Parce que moi, je crois des fois, même s'ils ne le font pas exprès, c'est une équipe qui accepte la domination justement pour pouvoir contrer derrière. Parce que hier, il vient de le rappeler, le deuxième but, c'est justement suite à une perte de balle de cette équipe et qui se fait contrer et qui prend un but dans la foulée. C'est voulu, c'est comme ça.
Je ne sais pas si c'est voulu, quand même.
Même si
peut-être qu'il fait avec ce qu'il peut aussi.
Non, mais se mettre en danger comme ça, il y a un risque quand même.
Il y a un risque, forcément, il y a un risque. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec les joueurs qu'ils ont, ce n'est pas mieux de contrer que d'avoir le jeu ?
Bien oui, sûr, mais... besoin de profondeur pour un joueur comme Mbappé qui a besoin d'espace.
Mbappé, Ousmane Dembélé, ils ont besoin de...
Mais on n'est pas dans la même physionomie qu'en 2018, où là, c'était voulu.
C'était
un bloc bas
plus solide,
qui était plus solide défensivement et qui se projetait rapidement. Là, j'ai l'impression qu'on est sur un déséquilibre. Moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça, parce que quand on regarde cette Coupe du Monde, la plupart des équipes ont ces moments de flottement. Même le Brésil en a eu un. Alors, c'était l'équipe bis, donc on verra ce que ça va donner ce soir. Mais toutes les équipes ont eu des moments de flottement, ouais. Que ce soit l'Espagne, que ce soit l'Angleterre,
mais peut-être
que ce soit le Portugal.
En vertu des blessés, en vertu des limites aussi, hein, je crois, parmi
bien
toutes les équipes. Hein.
Ouais, complètement. Mmh. Et puis la fatigue aussi, avec exactement. La cadence qu'il y a eu sur les deux premiers mois de la saison. Donc, ce n'est pas gênant. Maintenant, il faut l'accepter. C'est quelque chose qu'il faut accepter.
Il
y a du danger. Mais l'équipe de France a tellement de talent offensif, encore une fois, qu'elle est capable de renverser les situations, je pense.
Alors, justement, intéressons-nous. Bon, on aura le temps de s'intéresser aux France-Angleterre et de le mettre en perspective. Mais individuellement, c'est vrai qu'il y a des stats qui en disent long. Et peut-être qu'on peut commencer tout simplement par Didier Deschamps. Didier Deschamps, par rapport... Alors, c'est la troisième fois qu'il est en Coupe du Monde avec les Bleus. C'est la troisième fois qu'il les emmène en quart de finale, ce qui est déjà beaucoup.
Ce qui est une première fois dans l'histoire de l'équipe
de
France.
Voilà.
C'est ça qui est exceptionnel, qui est passé un peu sous silence, je trouve. C'est un exploit
2014,
assez, assez impressionnant
18,
dans l'histoire
ouais.
du
Et même
du
en 2014, ils sont sortis 1-0, mais
ouais.
ils auraient pu égaliser. Ils ont,
ouais,
exactement.
Ouais.
En
ouais,
2018,
ouais.
ils sont champions. Là, ils sont rigoureux, ils sont efficaces, ils marquent beaucoup de buts. Chapeau à Didier Deschamps.
Oui, sans doute croit-il peut-être plus en eux aussi. Et une stat intéressante au sujet de Didier Deschamps, par rapport à tous les sélectionneurs qui ont disputé plus de 10 matchs en Coupe du Monde, il a 75% de taux de réussite, 75% de victoire. C'est quand même déjà un chiffre très important. Et puis, il y en a un autre qui accumule les buts. Et du coup, évidemment, il brille.
Mbappé vers Giroud, la frappe de Giroud et c'est dedans. 52 buts, mesdames, messieurs, pour Olivier Giroud en équipe de France.
Et oui, c'était pas celui que vous imaginiez, mais on en parlera après, évidemment, de Kylian Mbappé. Pour l'instant, c'est Giroud, évidemment, Olivier Giroud, qui est au firmament, peut-on dire, et du football français et de sa carrière. À 36 ans, il est déjà désormais le seul et premier meilleur buteur en équipe de France. 52 buts, c'est donc un de plus que Thierry Henry, champion du monde et champion d'Europe 98 et 2000. Olivier Giroud, lui, est champion du monde en 2018, mais cette fois, il marque déjà 3 buts. Alors, est-ce que cela éteint les critiques, on va dire, des mauvais coucheurs pour briller seul désormais, Bruno Constant?
Bah déjà, on ne pourra plus lui reprocher de ne pas marquer en Coupe du Monde. Et ça, je pense que c'est bien pour lui, c'est bien pour la manière dont on va regarder sa carrière quand il aura fini, parce que sa carrière, elle est extraordinaire. Quand on fait le bilan, il a gagné la Coupe du Monde, il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné l'Europa League, il a quasiment tout gagné. Il a gagné le championnat d'Italie avec le Milan, qui est juste magnifique. Il est en train de finir cette carrière ou de l'étirer d'une manière assez incroyable. Et c'est beau et ça récompense le travail de ce joueur qui, pour moi, dans le football français, est un vrai exemple. Plus qu'Mbappé, Mbappé c'est un don, personne ne pourra l'imiter, personne ne pourra prendre l'exemple sur lui.
Le travail, mais bon.
Mais avec le travail, avec les critiques à essuyer Giroud, il est capable de, à chaque fois de remonter, de faire face à l'adversité et de remporter le bras de fer avec les critiques.
On en parlera tout à l'heure par rapport à Kylian Mbappé, mais lui, il a commencé en équipe de France, il avait déjà 25 ans, donc c'était pas non plus, effectivement, il venait de quitter Grenoble et il quittait à peine la Ligue 2. Il y a eu des joueurs qui l'ont précédé au tableau des meilleurs buteurs au fil du temps, bien sûr. Jean Vincent, il y a bien, bien longtemps. Ensuite, il y a eu Juste Fontaine, l'homme notamment de la Coupe du Monde de 1958, Michel Platini et puis Thierry Henry. Mais c'est intéressant, Dominique Baïf. Thierry Henry marquait un but toutes les 178 minutes en équipe de France. Lui, c'est toutes les 128 minutes. C'est amusant parce que finalement, il passe en même temps toute cette Coupe du Monde en Russie, en ayant évidemment son rôle qu'on a largement et toujours souligné, mais en tout cas sans marquer.
Oui, sans marquer. C'est un peu aussi ce qui peut expliquer les deux regards qu'on peut avoir sur la carrière internationale d'Olivier Giroud et son histoire avec l'équipe de France. C'est qu'en 2018, on l'a rappelé, et toujours rappelé, il y avait zéro but. À l'Euro, il est remplaçant. Là, désormais, il est enfin efficace, et c'est ce qu'on lui demandait, parce qu'il a un rôle aussi prépondérant dans ce rôle de pivot, de joueur majeur numéro 9. Et donc, sa carrière peut être lue de façon différente. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit dans cette efficacité, dans ce réalisme. C'est un joueur qui a son rôle, qui peut être prédominant pour ce mondial-là, et qui peut emmener cette équipe de France le plus loin possible. Mais ça ne doit pas non plus mettre de côté tout ce qui a été fait auparavant, notamment le Mondial 2014, l'Euro 2016, où c'était un joueur qui était un joueur de groupe, mais qui n'était pas forcément décisif. Et c'est pour ça que cette image de dépasser Thierry Henry, elle est très bien, il restera dans les histoires en termes de statistiques. Maintenant, il faudra aussi se pencher sur ce qu'il a apporté lors des vraies compétitions, les compétitions internationales, que sont l'Euro ou le Mondial. Et malheureusement pour lui, il a quand même gagné un Mondial, mais c'est vrai qu'on retiendra peut-être aussi ses zéro buts. Donc tout dépendra de comment il terminera cette Coupe du Monde. Si jamais la France va remporter ce titre de champion en avec un Giroud buteur, ça effacera peut-être tout ce qui s'était passé auparavant.
Mais est-ce que le fait d'avoir inscrit 52 buts à 36 ans, en plus, il participe à cette Coupe du Monde et on n'a pas l'impression d'avoir un papy sur le terrain. Yoro, est-ce que justement son expérience, son âge, tout ça, il ne va pas en sortir grandi par le fait d'avoir inscrit 3 buts, que la France s'arrête au prochain match ou pas?
De toute façon, il est en train de faire une excellente Coupe du Monde. Et que ça s'arrête là ou pas.
On a vu d'ailleurs cette accolade avec Didier Deschamps qui semblait en dire long quand même.
Ben oui, ça veut dire quoi? Mais les chiffres ne mentent pas. C'est-à-dire ce gars, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Son seul problème, Olivier Giroud, on essaie de le comparer.
C'est son style?
Pas son style. On essaie de le comparer à d'autres joueurs, pas sur le plan des stats, mais sur le plan de la qualité du joueur. Quand on parle de Thierry Henry, c'est plus un dribbleur, c'est plus quelqu'un qui peut éliminer, qui peut tout faire. Quand on parle de Platini, c'est ses coups de pied arrêtés. Il n'est pas ce genre de joueur-là, mais il faut respecter la carrière. Il faut respecter la carrière qu'il fait. C'est comme si c'était un cheval sur lequel on ne mise jamais, mais à la fin de la course, c'est lui qui gagne. C'est ça, Giroud. Il gagne en Italie, il gagne en Angleterre. Même à Montpellier, il est champion de France. Il est meilleur buteur du championnat français avant de quitter le Montpellier. Mais on essaie toujours de le comparer à... Aujourd'hui, pour moi, S'il faut comparer Giroud, il faut le comparer à David Trezeguet. Ils ont joué au même poste, ils jouent au même poste, ils ont les mêmes qualités, cette sorte de détente, de buteur, etc. Mais il ne faut pas le comparer à Thierry Henry ou à Michel Platini. C'est d'autres joueurs et lui, il fait sa carrière autrement, il faut respecter.
Oui, mais Yoro, juste, voilà, tu compares à David Trezeguet, c'est très bien. Maintenant,
David Trezeguet, Youri Djorkaeff, qui était dans les tribunes hier, pour regarder et encourager les Français.
Mais si jamais voilà, l'équipe de France venait à s'arrêter là, ne remportait pas ce mondial, dans l'histoire de l'équipe de France et l'impact de ces deux joueurs, on retiendra le but de Trezeguet en Italie. Qu'est-ce qu'on retiendra de Giroud en Coupe du Monde ou à l'Euro? C'est ça, moi, la question que je me pose aussi sur le regard qu'on peut avoir sur Giroud. Alors, les statistiques, c'est très bien, mais il y a beaucoup de matchs, beaucoup de buts en matchs amicaux qui ne sont pas en phase éliminatoire. Donc ça aussi, il faut aussi le noter.
Mais en Italie, là, il épate beaucoup les supporters du Milan AC. Matteo Cioffi nous le raconte souvent. Et il a marqué des buts décisifs et essentiels, Bruno.
Il a été même célébré par la Gazzetta dans ses notes sur le match d'hier. Il se bonifie avec le temps. Yoro rappelait tous les titres qu'il a gagnés et dans les différentes équipes ou les différents pays. À un moment donné, quand on gagne dans toutes les équipes où on passe, c'est pas qu'une coïncidence. C'est parce qu'on a une influence sur l'équipe dans laquelle on joue et on rend cette équipe un peu meilleure. Chacun apporte sa petite pierre, mais ça veut dire que Giroud l'apporte aussi. Et c'est surtout un attaquant qui est tourné vers les autres. Et moi, je trouve ça magnifique. Effectivement, on ne retiendra peut-être pas ses buts en équipe de France. On en retient certains en Angleterre. Hein, il en a mis des buts absolument magnifiques, notamment
en Italie aussi. Cette année, il a marqué le but le plus beau cette année.
Exactement.
Mais on se souvient dans un France-Espagne où il avait marqué quand même le but.
Mais on se souviendra du chiffre quand même. Ouais. On se souviendra que c'est lui. En tout cas, jusqu'à Mbappé le battre, parce qu'à mon avis, ça arrivera. Il y aura ce chiffre malgré tout. Et dans l'histoire de l'équipe de France, on se souviendra d'un attaquant qui s'est battu contre les critiques. Il y a 3 mois ou 4 mois, on ne l'imaginait même pas à cette Coupe du Monde. Il y a 2 mois, on ne l'imaginait pas titulaire. On pensait qu'il allait faire le banc derrière Benzema et qu'il ne jouerait peut-être sans doute pas. Aujourd'hui, il est titulaire, il marque des buts et il aide son équipe à avancer dans cette Coupe du Monde. C'est un parcours extraordinaire.
Extraordinaire donc Olivier Giroud, et on le verra évidemment au prochain match. Hugo Lloris a lui aussi égalé un record, celui du nombre de sélections avec sa 142e cape pour France-Pologne. Il a donc égalé Lilian Thuram et gageons qu'il le dépasse dès samedi prochain contre l'Angleterre, peut-être plus, ça on verra. Mais celui qui a aussi emporté pour la 3e fois en 4 matchs le trophée d'homme du match, c'est évidemment Kylian Mbappé. 2 buts et 1 passe décisive, 5 buts depuis le coup d'envoi à Doha. Il est toujours là pour changer un match, même lorsque les Bleus sont un peu à la peine, et lui aussi. Kylian Mbappé, qui a révélé dans sa première comparution face à la presse hier, quel est son moteur, sa motivation? C'est au micro d'Antoine Grenier.
Cette Coupe du Monde, c'est une obsession. Moi, c'est la compétition de mes rêves. J'ai la chance de la jouer. J'ai bâti ma saison sur cette compétition. Que ce soit physiquement, mentalement, je voulais arriver prêt pour cette Coupe du Monde. Et pour l'instant, ça se passe bien, mais on est encore loin de l'objectif qu'on s'est fixé et que je me suis fixé, qui est de gagner. Donc il y a encore un quart de finale sur lequel on va se concentrer et c'est le plus important aujourd'hui.
Une obsession bienvenue, hein, mieux vaut l'avoir dans notre équipe, lui aussi Kylian Mbappé. Va-t-il bousculer toutes les statistiques Euro, je ne sais même pas lesquelles. Par exemple, là, il a inscrit 9 buts en Coupe du Monde avant ses 24 ans et il est le seul.
Ben, il est parti pour battre tous les records, que ce soit en club, avec l'équipe nationale.
Son but, hein.
Parce que déjà, gagner la Coupe du Monde à l'âge de 18 ans, 19 ans, qu'il a fait en mettant autant de buts importants. C'est un garçon extraordinaire qui est très lucide et qui porte à lui tout seul cette équipe de France à chaque fois.
Non, c'est faux. Je ne suis pas d'accord. Mbappé ne gagne pas la Coupe du Monde à lui tout seul et il ne la gagnera pas la Coupe du Monde, cette Coupe du Monde-là tout seul. C'est
mais
faux. Un joueur, moi j'ai jamais vu.
Sans doute que Pelé, on en parlera tout à l'heure, mais sans doute que Pelé n'a pas gagné seul non plus.
Mais ce qu'il est en train de faire depuis le début de ce mondial-là, c'est lui qui tire tout seul cette équipe vers le haut.
C'est pas vrai.
S'il n'est pas là, il y a des buts.
Non, mais tu ne peux pas dire c'est lui qui tire tout seul cette équipe.
Ah oui, mais oui, forcément.
Mais c'est lui qui est au bout des actions. Mais ce que fait Rabiot et Tchouaméni au milieu de terrain, c'est hyper important. Ce que fait Griezmann sur la deuxième période, c'est hyper important. Ce que fait Lloris, l'arrêt que fait Lloris juste avant le but, c'est hyper important. il est au bout des actions. Il est ce facteur X qui fait qu'il peut renverser
les
matchs.
Mais seulement, il y a des joueurs qui sont au bout des actions, malheureusement, et qui ne terminent pas bien l'action.
Mais bien sûr, mais il n'est pas tout seul dans cette équipe. C'est pas lui qui peut gagner la Coupe du Monde tout seul. Pour moi, le seul joueur qui a gagné une Coupe du Monde tout seul, pour moi, le seul dans l'histoire, c'est Maradona. Ce qu'il a fait avec l'Argentine en 86, parce qu'il en avait une équipe qui était très, très faible. Mais là, ce n'est pas le cas avec l'équipe de France. Il y a beaucoup de qualité dans cette équipe. Mais il est effectivement au bout des actions. Et il a un truc en plus, on est tous d'accord, c'est aujourd'hui le meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Mais deux jours avant, qu'est-ce qu'on a dit de Messi avec l'Argentine face à l'Australie ? On dit que Messi, c'est incroyable, il a porté cette équipe d'Argentine, c'est toujours le meilleur joueur du monde. Donc ça change, ça évolue, et ça évoluera peut-être demain avec un autre joueur. Mais
peut-être que Kylian Mbappé est en train de bousculer tout ça quand même. Messi, oui. Neymar, Cristiano Ronaldo, il est en train de bousculer ça, Dominique.
Oui, c'est la nouvelle génération et il assume aussi ce nouveau rôle, cette importance qu'il peut avoir pour une équipe de France. On l'a vu avec le Paris Saint-Germain aussi, c'est un joueur qui assume ses responsabilités, qui les demande. Et une fois qu'il les demande, il répond présent sur le terrain. Donc c'est ça qui est le plus important, c'est que si un joueur estime qu'il doit être le leader d'une équipe, alors je ne parle pas d'un leader vocal, parce qu'en équipe de France, ce n'est pas leader vocal, mais il montre par l'exemple, par les buts qu'il va inscrire, qu'on peut le suivre et qu'on peut compter sur lui. Donc c'est ça le plus important. Il prend la succession d'un Cristiano Ronaldo, d'un Lionel Messi qui sont en fin de parcours, et il est sur le même chemin, sur le même cheminement. C'est-à-dire que ce soit dans les statistiques, mais aussi sur l'impression qu'il donne sur le terrain quand il fait ses démarrages, quand il va marquer des buts, quand il fait des différences, ça nous montre aujourd'hui que c'était le joueur majeur de ce mondial et qu'il est très important. Mais je rejoins Bruno, aujourd'hui dans cette équipe de France, quand on voit le travail d'un Griezmann, qui pourtant il y a encore un an ou même à l'Euro c'était très compliqué, il était à la cave,
il a toujours été présent en équipe de France,
exactement, il a toujours été présent malgré des matchs où il n'était pas bon, et ça il faut le dire aussi, mais depuis cette année c'est devenu un nouveau joueur. Donc il faut parler de cette importance là de Rabiot aussi, qui est très très bon durant ce mondial et qui est plutôt discret, mais qui a un rôle prédominant aussi dans cette équipe là donc Mbappé peut compter sur ce collectif.
Il est bien aidé. Ce que je veux dire par là, c'est que le plus dur dans le football, c'est de marquer des buts. Mais si vous avez quelqu'un qui, dans un tournoi pareil où on doit jouer 6, voire 7 matchs, il peut te mettre 7-8 buts, mais c'est presque gagné.
D'ailleurs, il est déjà le meilleur buteur.
C'est presque gagné. Il n'y a aucune équipe dans ce tournoi qui peut avoir un joueur qui va mettre 7-8 buts avant la fin du tournoi. Il n'y a que lui. Comment ça s'appelle ? Messi ne le fera pas, Cristiano Ronaldo ne le fera pas.
Ce n'est pas pour ça que tu vas gagner les matchs et gagner la Coupe du Monde. C'est faux. La preuve, c'est qu'à l'Euro, on avait déjà Mbappé, c'était il y a seulement un an.
Il n'a pas marqué autant de buts.
Pourquoi on n'a pas gagné l'Euro ? Parce qu'il était dans l'équipe, c'était le meilleur joueur du monde déjà à l'époque. Pourquoi on n'a pas gagné ? Parce que l'équipe de France n'était pas assez solide. Et c'est ça.
Et pourtant, il y avait moins de blessés que maintenant.
Ça reste un sport collectif, le foot. Tu peux pas gagner tout seul. Même tu peux être le meilleur joueur du monde. Et la preuve, Messi.
Mais Didier Deschamps dit c'est l'homme qui change un match.
Non, mais Messi n'a toujours pas gagné la Coupe du Monde. Messi. On peut être d'accord, sur les 10-15 dernières années, c'était sans doute le meilleur joueur du monde.
Ça l'esprit comme anglais. Pourquoi les Anglais appellent ce genre de joueur des game changers ?
Game changer, changer le match.
Mais il
ne gagne pas lui tout seul, il peut changer le match. Pour changer le match, il faut être en possibilité de le changer.
Alors là, on est dans la nuance.
C'est une nuance qui font gagner.
David Finzel vous écoute. Bruno, une chose, quand il dit c'est mon obsession la Coupe du Monde, lui qui dispute les Ligues des Champions toutes les saisons avec une équipe qui quand même va souvent assez loin, qui est même allée en finale avec lui, est-ce qu'on peut comprendre cette passion qu'il a pour la Coupe du Monde ?
Oui, parce que c'est le rêve de tout gosse. Nous, on a été gamins, on aimait le foot depuis tout petit.
Vous pensez plus qu'une Ligue des Champions ? Il a déjà gagné une Coupe du Monde. Est-ce que pour lui, on ne peut pas se dire maintenant, avec Messi et Neymar, il faut qu'on gagne la Ligue des Champions ? Non ?
Non, mais parce que...
On dirait qu'il est investi de quelque chose de plus
Quand on est gamin, le truc dont on rêve quand on est gamin devant la télé, c'est la Coupe du Monde. Ouais. C'est le trophée, c'est le summum de tous les trophées. Tu es sur le toit du monde, tu es la meilleure équipe du monde. La Ligue des Champions, on ne peut pas dire que tu es la meilleure équipe du monde, tu es la meilleure équipe d'Europe. Et je comprends, et je pense qu'il ne se contente pas d'une Coupe du Monde. Il a eu la chance aussi de débuter dans une équipe de France à l'âge de 18 ans, 19 ans, dans une équipe de France qui était solide pour la gagner. Mais par exemple, il y a des joueurs qui, suivant l'âge à laquelle on est, on ne peut pas disputer une Coupe du Monde à l'âge de 18 ans. Lui, il a cet avantage-là, donc il va pouvoir en disputer peut-être 4, peut-être 5, ce qui est extraordinaire. Et lui, il veut laisser une trace dans le football. Et pour laisser une trace dans le football, il faut gagner la Coupe du Monde. Mais s'il n'a pas gagné, Cristiano Ronaldo ne l'a pas gagné.
Mais
c'est
ils ont déjà laissé une trace.
C'est une manière pour lui peut-être
d'un jour... De brûler les étapes.
Peut-être, d'un jour peut-être, de devancer Messi et Ronaldo en termes de trophées. Et ça, effectivement, là, il pourrait dire qu'il a marqué l'histoire du football.
C'est ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup du football de club et qu'on dit parfois on a des doutes sur le football de sélection. Et c'est vrai que lui, en tout cas, c'est sa passion déclarée. Heure de vérité, on y reviendra, hein, à ce France-Angleterre. Ça sera samedi prochain, affiche inédite dans une Coupe du Monde pour les Bleus et pour la Free Lions. His feet on the left. Fulton's cross. Saka is in there! It's 3-0! Oh, what a lovely finish from Bukayo Saka!
Saka!
Saka pour le troisième but de l'Angle.
Goal, 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 goal!
Et le but de Bukayo Saka!
Bukayo Saka!
Bukayo Saka!
Et ça fait 3-0. Cette fois, on va y aller. Hein, Fred.
C'est un but d'école.
Ils n'ont guère rugi, les Lions, hier soir à Doha. On a bien vu un coup de patte qui aurait pu changer le match si Ismaïla Assar n'avait pas buté sur Jordan Pickford. Hein, qui aurait dit qu'un gardien anglais s'illustrerait aussi bien sur la scène mondiale. C'était
dur,
d'ailleurs sans doute...
Vous êtes dur, Annie, vous êtes dur.
Un peu. Véritable homme du match côté anglais ou un des hommes du match. Le Sénégal a donc été battu assez sévèrement au score comme sur la pelouse. Écoute, l'analyse d'Aliou Cissé, le sélectionneur, au micro de Frédéric Suto.
Ce qui n'a pas marché tout simplement, c'est que je pense qu'on est tombé face à une très belle équipe anglaise. Dans l'impact physique, dans les duels, dans beaucoup de choses, on a été en dessous de ce qu'on est capable de faire. Maintenant, on a eu aussi, c'est vrai, 2, 3, 4 garçons qui nous ont manqué. On ne cherche pas d'excuses, mais je pense que dans ce domaine-là, si on les avait aujourd'hui, peut-être que l'écart serait un petit peu moins large que ça a été tout le long du match. Donc on a travaillé pendant des années pour être numéro 1 africain, on a travaillé pendant des années pour être champion d'Afrique. Maintenant, c'est à nous de continuer à travailler pour arriver à ce niveau-là qu'est l'Angleterre et les autres équipes qui sont sur le ranking FIFA.
Plutôt honnête, Aliou Cissé, à la fin de ce match, car quand même, il faut le souligner et le rappeler, son équipe, celle du Sénégal, est parmi les 16 meilleures du monde dans cette 22e édition. Et c'est déjà beaucoup. Mais ce match, Yoro, on a quand même des regrets.
On a des regrets, surtout lors des 30 premières minutes où on a eu 3 belles occasions pour ouvrir le score. Malheureusement, on n'a pas pu le faire et quand on défend comme ça, à coup sûr, sur 90 minutes, il y aura des erreurs de replacement, il y aura des failles dans cette équipe du Sénégal. En plus, Aliou Cissé a eu une analyse lucide. Quand on est privé de ses meilleurs hommes, c'est difficile de faire plus hein, parce qu'on n'avait pas hier dans l'entrejeu Kouyaté ni Gana Gueye. Devant, je ne parle pas de Sadio Mané. Voilà, c'est comme ça. Ils n'ont pas à rougir de cette défaite parce que nous sommes 18e FIFA sur le ranking de la FIFA. Être battu par le 4e ou 5e, ce n'est pas une honte.
On dirait qu'ils ont eu peur.
Ils n'ont pas eu peur.
Ils ont été impressionnés. Le premier but les a un peu assommés, mais le deuxième les a. La deuxième mi-temps,
c'est justement ça.
On a même eu peur qu'ils en prennent pas 5 ou 6.
Ça me rappelle dans les années 90 quand une équipe française jouait face à une équipe italienne. Ouais. On se disait que c'est possible, mais après on voit
face au Brésil d'ailleurs.
Sur les 35 minutes de jeu avant le premier but anglais, à un moment donné, les Sénégalais avaient le ballon parce qu'ils se disaient tiens, on a peut-être fait douter cette équipe anglaise, on va sortir plus. Et c'est là justement qu'on s'est fait punir. Maintenant, on apprend. En 2018, on est éliminé au premier tour. Là, on est en 8e. On est champion d'Afrique. C'est comme ça qu'on va grandir. Et moi, ils n'ont pas à rougir de cette défaite parce que quand on vient dans une Coupe du Monde, on perd 2 fois. On est battu par la Hollande et l'Angleterre. Les 2 autres équipes supposées être plus faibles ont été battues par le Sénégal. Ils n'ont qu'à rentrer avec les armes et se repréparer pour la prochaine édition.
Est-ce que ça veut dire que peut-être le mur européen était un peu trop haut pour le Sénégal, Dominique Baïf?
Avec les absences dans ce groupe, oui. Quand on parle d'un Sadio Mané qui n'était pas là durant toute la compétition, mais on connaît l'importance offensive. On l'a vu encore hier, hein, Boulaye Diaye, malheureusement, qui a eu quelques opportunités et qui ne les transforme pas. Donc ça a fait énormément de mal à cette équipe sénégalaise. Et c'est vrai que face à cette adversité-là, avec des joueurs... Yoro l'a dit, hein. Gueye n'était pas présent. On connaît son importance aussi dans l'entrejeu sénégalais qui aurait pu faire plus de mal dans la percussion et dans la projection vers l'avant. Donc avec cette équipe, on va dire limitée en termes de qualité pour ce match-là, hein, je parle pour ce match-là, la marche était peut-être trop haute. Mais sur ce que nous a montré cette équipe sénégalaise depuis plusieurs années, et notamment le fait d'arriver sans Sadio Mané, on se demandait s'ils allaient déjà sortir du groupe. Sans l'importance de ce joueur-là, est-ce qu'ils étaient capables ? Ils l'ont fait et c'est une très bonne chose. Et ça nous prouve aussi l'évolution et le progrès que fait cette sélection sénégalaise. Et comme l'a dit le sélectionneur, c'est étape après étape. Ils ont été champions d'Afrique, ils passent le premier tour de Coupe du Monde. Maintenant, il faudra confirmer par la suite. Mais ils sont sur un bon process et c'est ça le plus important à retenir, je pense.
Mm-hmm. Moi, je trouve qu'ils sont pas loin du plan Bruno. Parfait en fait sur l'entame de match. Et je pense que c'était le plan d'Aliou Cissé, de presser, de les agresser, ces Anglais, de marquer le but. Et une fois que tu as marqué le but, peut-être de jouer un peu plus bas et de les frustrer défensivement. Et franchement, ils sont passés pas loin de ce plan-là. Il a manqué que le but. Et moi, j'étais curieux de voir s'ils avaient marqué ce but en bousculant les Anglais, en les rendant vraiment fébriles. S'ils avaient mis un petit peu le doute dans cette équipe anglaise, comment cette Angleterre aurait réagi ? Est-ce qu'elle aurait eu les mêmes ressources pour aller marquer ce but face à un bloc bas ? Voilà, c'était... Pour moi, le Sénégal a réussi sa Coupe du Monde. Franchement, retirer Sadio Mané avant la compétition à cette équipe, vous retirez déjà 50%. En respect vraiment à toute l'équipe. Hein. C'est ton arme, c'est ton meilleur joueur, c'est ta star sur le terrain.
Celui qui impressionne, celui qui est bien sûr.
Et ensuite, tu perds deux milieux de terrain qui ont été magistrales sur ce début de Coupe du Monde. Ça devient trop dur pour le Sénégal. Il n'y a pas assez de ressources ou de bandes touches pour concurrencer, en tout cas sur 90 minutes. Parce que sur 35 minutes, je suis d'accord avec Yoro, ils ont plus que fait jeu égal. Ils ont dominé cette équipe anglaise.
Yoro, on se demandait qu'est-ce qui leur a manqué à ces Sénégalais. Alors, bien sûr, les absents qui, sans doute, auraient peut-être fait pencher la balance et auraient, en tout cas, fait peut-être la différence. Mais aussi, peut-être qu'il leur a manqué je ne sais pas, un instinct plus tueur, comme on dit dans le jargon du football, c'est-à-dire plus clinique, et puis peut-être aussi mental, c'est-à-dire en deuxième mi-temps, on les a sentis flancher.
Mais quand vous prenez un but à la 35e et un autre dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, c'est le coup de massue.
Et notamment dans ces conditions-là, où tu as dominé.
Donc c'était le coup de massue, et ils se disent... Déjà qu'on a eu des occasions, on ne peut pas les mettre. Maintenant, comment faire pour aller chercher cette ressource mentale pour justement essayer de fatiguer cette équipe anglaise ? Ce n'était pas possible. Moi, pour moi, hier, au bout de 35 minutes, quand on n'a pas marqué, je me suis dit, c'est mort, c'est fini.
Oui, puis on le sait, hein, on le dit, des occasions manquées à ce niveau-là de la compétition, souvent on les regrette.
Quand tu laisses passer ta chance comme ça, généralement, à ce niveau-là en tout cas, elle ne revient pas forcément. Après, il y avait un fait sur l'équipe du Sénégal durant cette Coupe du Monde, c'est que physiquement, elle faiblissait à l'heure de jeu à chaque fois. Les 4 buts qu'elle avait encaissés avant l'Angleterre, enfin avant le match contre l'Angleterre, c'est toujours arrivé après l'heure de jeu. Donc, ce qui montre que physiquement, ils étaient un
même
peu justes.
Même contre le Qatar, oui.
Et là, contre l'Angleterre, ça s'est vu. C'était autant mental que physique. À un moment donné, ils ont lâché.
Les deux, parce que quand même, les joueurs qui ont débuté ou qui sont entrés en cours de jeu hier, ce n'est pas des gens qui jouent en club. Pape Matar Sarr, c'est 0 minute avec les Spurs de Tottenham. Pape Gueye, il ne joue pas beaucoup avec Marseille. L'Olympique de Marseille.
Bamba Dieng
non plus. Tout ça, ça, c'est quand même ajouté bout en bout. C'est dur à supporter pour ces jeunes joueurs. Après, j'ai vu des gens taper sur Aliou Cissé, taper sur certains joueurs. C'est facile, la critique facile. À chaque fois qu'on perd, moi, je préfère des critiques objectives. Quand ça gagne et ça joue mal, on dit on a gagné, mais on a joué mal. Mais hier, quand même, il n'y a rien à redire sur ce qu'ils ont montré. Ils n'ont pas à rougir de ces défaites.
Il faut être vraiment injuste pour taper sur Aliou Cissé après tout ce qu'il a réalisé avec cette sélection.
Exactement.
Mais d'ailleurs, il a dit, le travail continue, donc misons qu'il continue. Un petit mot sur les Anglais quand même, Bruno Constant, on en reparlera. Mais les Anglais, hier, on les a sentis plutôt à l'aise.
Oui, un petit peu comme l'équipe de France, il y a ce moment de flottement. Oui. Et puis, ils sont capables, par ce jeu collectif de transition rapide, d'aller porter le danger assez rapidement. Là, clairement, il y a plein d'individualités qui se sont montrées. Harry Kane, qui n'avait pas encore marqué, a ouvert son compteur. Il avait fait exactement pareil à l'Euro. Il n'avait pas marqué pendant la phase de poule. Il avait marqué lors du 8e de finale et après, il avait lancé sa compétition. Et puis moi, ceux qui ont le plus marqué, c'est Jude Bellingham et ce milieu de terrain à 3. Bellingham, il est en train d'éclater au grand jour. On parle d'Mbappé. Il y a ce jeune joueur de 19 ans, Jude Bellingham.
Alors, on en parle souvent grâce à Dortmund, bien sûr.
Et autour de lui, il était bien aidé avec Declan Rice, dont on parle très peu, mais qui fait un boulot monstre. Et lui aussi, il est très jeune. Il joue dans un club comme West Ham, qui n'est pas haut niveau, mais qui a une progression, ce joueur qui est exceptionnel. Et puis Jordan Henderson, c'était le choix de Southgate, qui est peut-être l'aboyeur qui manquait un peu à cette équipe anglaise. Milieu de terrain, beaucoup d'expérience. Lui, il a gagné les trophées, contrairement à Ken et Rice. Il a gagné avec des champions et des premières ligues avec Liverpool. Et voilà, et ce milieu de terrain, il a marché sur le milieu de terrain du Sénégal, qui était une des forces du Sénégal, d'ailleurs, depuis le début de la compétition.
Voilà pour ce qui est donc des perspectives. Rappelons que les Pays-Bas et l'Argentine s'étaient qualifiés les premiers. Ça, c'était samedi. Ils sont en quart de finale et ils joueront vendredi soir. Et puis, il reste des huitièmes. Alors, en ce moment, eh bien, on assiste à un Japon-Croatie très intéressant. Les Japonais avaient ouvert la marque et les Croates ont égalisé avec Perisic. Et donc, le match continue. J'ai l'impression qu'on va vers des prolongations, mais rien n'est sûr. Et puis, ce soir jouera le Brésil face à d'autres Asiatiques, face à la Corée du Sud. Les Brésiliens prêts à sortir du vestiaire ou presque pour affronter les Sud-Coréens, l'une des équipes surprises de ce premier tour qualifié aux dépens du Ghana et de l'Uruguay. Mais avant de prendre le pouls de cette équipe, de cette sélection, prenons des nouvelles de leur roi, de notre roi à tous, le roi du football, Pelé, le grand Pelé, l'éternel Pelé, mais qui malheureusement n'est pas immortel. On s'est inquiété tout le week-end depuis son hospitalisation samedi matin à Sao Paulo. Comment va-t-il à cette heure? On va prendre des nouvelles avec notre correspondant à Rio de Janeiro, Eric Frosio. Bonjour.
Bonjour Annie, tout bien?
Tout bien, Eric Frosio. Alors j'imagine que vous allez plus chaudement que nous ici, même dans ce studio. Eric, dites-nous si les nouvelles sont un peu meilleures au sujet de Pelé. Évidemment, il y a eu beaucoup de rumeurs au cours du week-end. Et puis, on a l'impression que ses filles ont voulu un peu éteindre l'incendie.
Pas seulement ses filles, puisque c'est même de São Paulo qui a publié un communiqué. C'était donc samedi en fin d'après-midi, quelques heures après que le journal Folha de São Paulo ait annoncé une nouvelle très très inquiétante, puisqu'il parlait de soins palliatifs pour le roi Pelé, d'un traitement pour lutter contre les métastases des intestins qui auraient fait des dégâts. Enfin, c'était une situation
alarmante.
Très très alarmante, exactement. Et puis dans un premier temps, le communiqué de l'hôpital a expliqué que l'état de santé de Pelé était stable, qu'il réagissait très bien au traitement pour lutter contre une infection pulmonaire et que tout était sous contrôle quelque part. Et hier soir, lors de l'émission Fantastico, que vous connaissez Annie, ce sont les filles du roi, notamment Kelly et Flavia, qui ont, comme vous le dites, un peu éteint l'incendie. Kelly a d'ailleurs expliqué que son père avait attrapé le Covid il y a 3 semaines de ça, donc ça peut expliquer cette infection pulmonaire qu'il serait en train de traiter. Donc on va dire que les nouvelles sont vraiment rassurantes concernant le roi. Il serait en mesure de regarder le match de la sélection aujourd'hui à l'hôpital. Il est dans une chambre commune et non pas en soins intensifs ou palliatifs. Donc vraiment, la bombe a été désamorcée et on espère de tout cœur qu'il puisse sortir de l'hôpital rapidement et retrouver la maison, bien sûr.
On a vu beaucoup de gens se mobiliser du côté de Doha, bien sûr, parce que tout d'un coup, à distance, il y avait une grande peur. Il y a eu des messages aussi dans les stades. Est-ce qu'au Brésil, on était aussi tout à coup très inquiet?
Écoutez, il y a eu de la mobilisation, notamment en face de l'hôpital, donc Albert Einstein. C'est des ultras du club de Santos, la Torcida Jovem, qui s'est réunie. Ils étaient une grosse centaine à brandir des pancartes, à se tenir la main et à prier pour que le roi puisse se rétablir. Après, dans les rues, à Rio, par exemple, je n'ai rien vu de spécial. Mais aussi parce que les médias mainstream, j'allais dire, n'ont pas non plus céder à la panique, c'est-à-dire que quand Folha de São Paulo a parlé de soins palliatifs, TV Globo ou CNN Brésil a pas du tout relayé cette information. Donc peut-être qu'une partie des Brésiliens n'a même pas su ou ne s'est pas autant alarmé que certains, en fait.
D'accord. Bon, merci beaucoup en tout cas pour ce bulletin de santé au sujet du roi Pelé. Eric, quand même, avant de vous laisser continuer du côté de Rio, dites-nous comment le Brésil vit sa Coupe du Monde.
Elle la vit avec passion, c'était prévisible, j'allais dire. Là, c'est la première fois que cette Coupe du Monde a lieu en plein été. Là, il fait 32 degrés, le match aura lieu à 16h, heure locale. Donc c'est parfait pour les Brésiliens. Ils peuvent être, ils sont la plupart libérés de leur travail, les écoles ferment et les enfants rejoignent leur famille, leurs amis pour regarder le match. Voilà, en plein après-midi, pour certains sur la plage, sur les écrans géants. Donc c'est une Coupe du Monde assez savoureuse pour l'instant, mais il faut que la sélection continue son chemin aussi, quoi. Et on attend évidemment ce match avec le retour de Neymar pour emballer tout ça, ouais.
Merci beaucoup Eric Frozio d'avoir été en direct avec nous et à très bientôt si le Brésil continue dans la compétition et on viendra prendre des nouvelles du côté de Rio. Merci beaucoup.
Merci Annie.
À bientôt. Alors sur le match justement, concentrons-nous sur ce Brésil Corée du Sud. La Corée du Sud, eh bien invitée surprise quand même, il faut l'avouer, dans le groupe. Elle a même remporté cette victoire sur le Portugal. On sait qu'en gros, toutes les grandes équipes ont perdu leur troisième match. Comment voit-il et attend-il la Corée du Sud? Eh bien la réponse de Thiago Silva au micro de Cédric De Oliveira.
On sait que ce sont des joueurs de haut niveau. Heung-min Son est à Tottenham, donc il joue à Londres, pas très loin de chez moi. Et je sais à quel point c'est difficile de l'affronter de par ses qualités. La Corée du Sud a aussi un excellent milieu de terrain. Lee, par exemple, a une qualité de passe incroyable. C'est un joueur très technique. Et puis défensivement, les Sud-Coréens sont très efficaces. Ils lancent bien leur contre-attaque également. Bref, on ne pourra pas se contenter d'être prudent avec cette équipe.
Techniquement, c'est très bon.
Alors, ne pas se contenter d'être prudent, c'est pas trop le genre des Brésiliens, Dominique. Surtout, leur bon point, peut-être, c'est Neymar est de retour. Et en même temps, on se demande si c'est un bon point.
Oui, on peut se poser des questions sur l'état de fraîcheur, on va dire, physique de Neymar, parce qu'il était absent sur les derniers entraînements.
Bah, ça fait 15 jours qu'il était immobilisé, finalement.
Oui, qu'il était immobilisé,
hein. Et vraiment dans le sens immobilisé, parce que sa cheville était prisonnière d'une botte bien spéciale.
Effectivement, elle avait bien gonflé. Mais c'est vrai que sur les 2-3 derniers jours, on a vu un joueur aussi qui, lors des séances collectives, a pu se montrer, et surtout se montrer prêt pour un combat avec cette intensité, parce qu'il faut rappeler que c'est un huitième de finale, donc il y a une intensité aussi folle. On connaît aussi l'intensité des Sud-Coréens, donc il faudra répondre présent physiquement. Mais on a senti un joueur, du moins sur les deux dernières séances d'entraînement, qui était pleinement capable de pouvoir évoluer durant 90 minutes. Et si aujourd'hui il est titulaire, comme l'annoncent les médias brésiliens et comme le sélectionneur aussi en a parlé, c'est que lui se sent prêt, c'est que le staff médical a donné le feu vert aussi avec toutes les garanties qu'il faut, que le sélectionneur aussi, parce qu'on sait très bien l'importance qu'attache Tite à la qualité des joueurs, mais surtout à leur investissement et sur la préparation qu'ils peuvent avoir personnellement. Donc aujourd'hui, s'il est présent, c'est qu'il a vraiment toutes les armes pour tenir le match.
Alors on n'a sûrement pas de doute, oui, sur sa motivation. On a entendu Mbappé dire « Pour moi, c'est une obsession ». On sait que c'était celle de ce trio du Paris Saint-Germain hein, qui s'était bien mis en route en début de saison. Est-ce que, selon vous, justement, Neymar serait prêt, entre guillemets, au sacrifice ? C'est-à-dire, bon, bah, sa cheville, il a peut-être encore un tout petit peu mal, mais il va y aller parce qu'il rêve de cette Coupe du Monde et enfin de pouvoir être efficace tout le temps, parce qu'on se souvient de 2014 où il est arrêté en quart de finale, on se souvient de 2018 où on sait qu'il a joué un peu sur une jambe et ils ne sont pas allés trop loin. Là, il estime qu'il faut aller jusqu'au bout avec eux.
Exactement. Il sait très bien aussi que c'est sûrement sa dernière Coupe du Monde avec le Brésil. Parce qu'on sait
c'est ce qu'il avait dit, mais il est quand même assez jeune.
Il est encore assez jeune.
Il n'a que 30 ans.
Mentalement, on sent qu'il y a une certaine usure aussi, une certaine fatigue, puisqu'il a commencé très jeune. Mais voilà, aujourd'hui...
Il n'a qu'à demander à Kylian Mbappé.
C'est vrai aussi. Mais c'est vrai qu'on a vu son début de saison avec le Paris Saint-Germain. On sait très clairement qu'il s'est préparé pour ce mondial-là. Il est arrivé dans les meilleures conditions possibles. Malheureusement, il y a eu cette blessure. Mais aujourd'hui, si lui, il estime être à 100% et pouvoir aider son équipe, même s'il doit serrer un petit peu les dents, il ne prendra pas le moindre risque parce qu'on sait très bien que désormais, cette équipe du Brésil peut gagner sans lui aussi certains matchs. On n'est plus dépendant de Neymar.
On peut en perdre aussi, apparemment.
Oui, mais on l'avait vu.
les Camerounais, écoutez, ils sont très heureux de leur trophée.
Oui, aussi, mais on l'avait vu par exemple face à la Suisse où il n'était pas présent. On l'avait vu en Copa América 2019 où cette équipe brésilienne avait fait parler le collectif et avait su remporter des matchs sans lui. Donc on sait très bien qu'on ne prendra pas le moindre risque si ça doit entamer peut-être le reste de sa compétition. Mais aujourd'hui, s'il est présent sur le terrain, c'est que mentalement, il est prêt à 100%. S'il doit serrer un petit peu les dents, il va le faire aussi. Et on l'a vu, hein, c'est un joueur qui, depuis le début de saison et avec le Brésil, est déterminant et encore aura son rôle à jouer ce soir.
Dominique, quand il dit c'est peut-être ma dernière Coupe du Monde, c'est quoi? Il sent que son corps est trop sollicité, peut-être déjà à bout.
Le corps, la tête aussi, on l'a dit, c'est un joueur qui a été exposé à la très forte pression brésilienne depuis son plus jeune âge. Mmh, donc ça pèse
Santos,
aussi. Il y a eu aussi.
Il faisait tout pour, hein.
Aussi, c'est vrai. Bah, maintenant, c'est vrai qu'il était jeune et c'est vrai qu'à l'époque, on l'a peut-être pas assez protégé. Mais c'est un joueur qui a connu une histoire aussi compliquée avec la Seleção. On l'a vu en 2014, c'était le meilleur joueur et il est blessé en quart alors qu'il n'avait rien demandé. C'était lui qui était vraiment le joueur dominateur alors qu'il était encore très jeune. 2018, il est passé à côté parce qu'il y avait ce poids de responsabilité.
Il revenait de blessure.
Il revenait aussi d'une blessure. Et il a voulu trop en faire. On l'avait vu sur le terrain, il prenait ballon, il avait forcé un peu son jeu. Et il se dit que peut-être 2022, avec l'équipe qu'il a autour, avec un sélectionneur, parce que pour moi, il faut revenir aussi au sélectionneur qui a apporté et qui a diffusé une vraie sérénité et qui l'a mis dans les meilleures conditions, c'est peut-être le moment idéal. Mais il y a cette usure mentale qui fait que dans 4 ans, est-ce qu'il sera encore prêt et est-ce qu'il a encore cette fraîcheur? Si aujourd'hui, il remporte cette Coupe du Monde, pour moi, je pense que la prochaine, on ne le verra pas.
Une dernière petite chose, il a été blessé, là, il revient, mais il n'est pas le seul blessé. Les Brésiliens, on en a assez peu parlé, j'ai l'impression, mais ils ont dû couper dans leur chair 2 autres joueurs qui ont dû rentrer au pays déjà pour des graves blessures, Gabriel Jesus et Alex Telles.
Et c'est dommage pour ces deux joueurs, puisqu'ils avaient l'occasion de se montrer face au Cameroun, et c'est sur cette rencontre-là où ils se blessent. On sait que Gabriel Jesus, malheureusement pour lui, c'est peut-être au niveau du genou. Alex Telles aussi, qui était le remplaçant d'Alexandro, qui lui aussi est blessé. Il ne sera pas présent ce soir, donc ça fait une option encore en moins pour le sélectionneur. Donc ce sont des joueurs qui étaient amenés à apporter peut-être un peu de fraîcheur en cas de besoin, notamment on sait qu'Alexandro parfois peut pêcher sur les dernières minutes, donc on devra pouvoir s'en passer, même si aujourd'hui Danilo devrait dépanner à gauche.
Bruno Constant, comment il vous apparaît ce Brésil sans Neymar et ce Brésil finalement face à la Corée du Sud?
On aurait pu s'inquiéter de l'absence de Neymar, qui aurait pu décourager ou troubler, bousculer cette équipe du Brésil, un petit peu comme ce qui s'était passé en 2014, où à l'époque il avait vécu de manière très très compliquée.
Mais il y avait un contexte, hein, c'était la pression.
Oui, il y avait la pression, il jouait à domicile. Voilà. Mais malgré tout, je pense que cette équipe du Brésil, elle a grandi. Elle est capable de jouer sans Neymar aujourd'hui parce qu'elle a les armes.
C'est le travail de Tite.
Elle a un réservoir assez impressionnant offensivement, donc elle peut s'en passer. Mais maintenant, on sait qu'un petit peu comme Mbappé avec l'équipe de France, c'est le facteur X, le game changer, comme disait Yoro. et forcément, le Brésil aura besoin de lui pour aller encore plus haut, pour atteindre la finale, et notamment peut-être la demi-finale qui s'annonce face à l'Argentine. Mais attention à cette équipe de Corée. Attention, c'est une équipe qui a souvent déjoué les pronostics dans les Coupes du Monde. Je me souviens de la dernière Coupe du Monde, ils avaient battu l'Allemagne. C'est cette victoire qui sort l'Allemagne au premier tour. Ils sont capables de renverser des montagnes. Ils ont pour moi un des plus beaux joueurs sur cette planète, c'est Heung-min Son, qui est un joueur fantastique. Sur le dernier match, l'action qu'il fait pour offrir le but, il est juste incroyable. Et voilà, attention.
Il est là par hasard, lui aussi, hein, parce qu'avec
son masque.
Il avait le nez cassé lors du match Marseille-Tottenham. On s'en souvient. Yoro, comment vous la voyez-vous, cette équipe du Brésil? On sait qu'elle arrive un peu le couteau entre les dents, hein, qu'elle est là pour la sixième étoile. On avait l'impression, en regardant l'équipe, hein, sur le papier, avec Guimarães, avec Paqueta, avec tous ces joueurs, en plus de Neymar, sans parler de la défense, du gardien, tout ça, on avait l'impression qu'à tous les postes ça allait plutôt bien. Est-ce que vous les voyez aussi forts ou il y a des petites ombres?
Moi, je ne veux pas les juger par rapport au dernier match face au Cameroun. Ils étaient déjà qualifiés et je crois qu'ils ont...
Je crois que c'était un peu tous les grands qui ont perdu leur troisième match. Hein.
Ils étaient qualifiés et même avec un Brésil B, ils ont eu les meilleures occasions du match. Ils auraient pu gagner 2-3-0 sans que ça choque personne. C'est une équipe extraordinaire avec Neymar qui revient. J'ai regardé quelques vidéos de ses entraînements. Je vois que la cheville tient bien parce que sur ses appuis, ça va. Il accélère, il frappe. Et avec ce joueur-là, on peut quand même pouvoir rêver du côté du Brésil parce qu'ils ont déjà un attaquant qui s'appelle Richarlison qui est puissant. Et ça, on n'avait pas ce profil-là au Brésil. Un joueur qui est bagarreur, puissant dans les 18 mètres. Et si je regardais le premier match, ce que Neymar fait, c'est le seul qui peut accélérer sur cet espace, sur 10-20 mètres, et mettre toute la défense à nu. Parce que ça, Paqueta, ce n'est pas un joueur qui adore courir. Il est très bon avec le ballon,
les beaux gestes.
Mais il ne court pas. Alors que Neymar, lui, il peut éclater une défense en une action. Et quand on l'a sur ce match-là, ça peut faire très mal du côté coréen.
C'est comme Kylian, quoi. Ce sont des joueurs qui
changent le match,
n'est-ce pas? Et c'est la fin de ce Radio Foot International d'ailleurs, hein, contre qui jouera le Brésil, si c'était le Brésil ou la Corée, il y a encore du suspense. Il y a des prolongations entre Japon et Croatie. Nous, on se retrouve à 21h10 en temps universel, 22h10 heure de Paris, au Burkina Faso aussi, où l'on vous parlera.